Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma, aujourd'hui avec très peu de films, mais un grand hommage, un hommage à Kirk Douglas, l'acteur américain qui a eu, il y a très peu de jours, 100 ans. Alors on va le fêter dignement, on va revenir un peu sur sa carrière et puis on aura l'occasion aussi de jouer un blind test, on écoutera 5 extraits de sa filmographie et il faudra trouver le titre. Et puis toi Manu ? Eh bien, tu parleras d'un film particulier de Kirk Douglas.
Eh bien, je vous parlerai de Fury de Brian De Palma, qui correspond un peu à son milieu de carrière, enfin, fin de carrière en fin de compte. Et puis, j'évoquerai un dictionnaire du cinéma japonais.
Et puis, ta Marine, eh bien, tu auras vu le bon comme le pas bon du tout.
Alors, moi, j'ai vu plus qu'un bon film. J'ai vu un film brillant. J'ai vu Baccalauréat de Christian Mungiu, prix de la mise en scène à Cannes cette année, dont je vais vous parler, bien évidemment. Et puis, beaucoup moins brillant, eh bien, je vous parlerai également de Absolutely Fabulous, l'adaptation de la célèbre série anglaise.
Eh bien, on va commencer avec le très bon.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Roméo est un médecin reconnu et honnête qui place beaucoup d'espoir en sa fille, brillante élève qu'il voit déjà dans une prestigieuse université anglaise. Pour cela, elle doit obtenir son baccalauréat avec une très bonne moyenne, une simple formalité étant donné son excellent niveau. Mais la veille de son examen, elle est victime d'un viol qui compromet sa réussite et remet en cause son départ. Mais pour la faire échapper à la misère de son pays, la Roumanie, Roméo est prêt à tout, même si cela doit mettre à mal son intégrité et ses principes. De compromis en pot de vin, il sombre peu à peu dans la corruption qui lui faisait horreur, en s'arrangeant pour que sa fille soit notée par des correcteurs préalablement soudoyés. « Il faut se battre avec les armes de son pays », se répète-t-il pour se persuader qu'il emprunte la voie la plus juste, mais... Est-ce donner à ses enfants un bon modèle que de se corrompre pour eux ? Eh bien là est la question de ce baccalauréat, question à laquelle Christian Mungiu répond brillamment et en 2 heures. Alors s'il est un petit peu tôt pour croire à une réelle nouvelle vague du cinéma roumain, on sait en revanche depuis quelque temps déjà que Christian Mungiu en est la figure de proue. Il poursuit ici la dissection pas très reluisante de la Roumanie qu'il avait commencé avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours, Palme d'Or à Cannes en 2007, un film qui suivait le chemin de croix d'une jeune femme tentant d'avorter dans une Roumanie post-communiste et peu progressiste. Dans... Baccalauréat, il nous livre à nouveau une vision très noire de son propre pays, plein de gens tristes, de rues sales sans éclairage, de terrains vagues et de chiens errants. C'est bien simple, si c'était pas un Roumain qui était aux commandes, le ton du film semblerait carrément xénophobe. Mais Mungiu ne se contente pas de la simple critique, donnant même à son film divers niveaux de lecture, moraliste mais jamais moralisateur, subtil et jamais nébuleux. Son film n'a pas besoin d'être dans la démonstration pour être puissant. On ne sait jamais vraiment en fait si le père du film tombe dans la paranoïa. Le film reste à la lisière du drame sans jamais basculer dans le polar urbain qu'il aurait pu devenir. Tout cela est dû à une mise en scène épurée et percutante, autant dire que Mungiu n'a pas usurpé son prix de la mise en scène à Cannes cette année. Et cette excellence de la mise en scène, eh bien, elle s'explique par la très grande minutie du réalisateur qui demande parfois jusqu'à 45 prises pour une même scène pour aboutir à la nuance exacte de jeu qu'il désire. Et cette exigence, eh bien, elle est payante puisque son film est vraiment remarquable. Pour moi, c'est un baccalauréat qui mérite mention très bien.
45 prises, 3 mois de tournage.
Non, 4 mois, 3 semaines. Et
Ouais, c'est ça. Eh bien, très bien de commencer en tout cas avec un film excellent. Et on va passer au gros dossier, on va tout de suite l'entamer. C'est Kirk Douglas dans Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, par quoi commencer quand on veut évoquer Kirk Douglas ? Si on veut aussi parler aux nouvelles générations, on peut commencer par dire que c'est le père de Michael et qu'il se ressemble. Mais déjà, ça pourrait leur faire tout bizarre à la nouvelle génération parce que Michael, vu dans Basic Instinct, Wall Street ou À la poursuite du diamant vert, eh bien, il a déjà 72 ans. La jeune génération va se dire, mais pourquoi parler de Kirk ? Il doit être mort avec de vieux films en noir et blanc jamais numérisés. Eh bien non, il vient d'avoir, il y a quelques jours, 100 ans, soit un siècle, soit 5200 semaines qu'il aurait pu occuper à des tournages de cinéma en se reposant chaque jour. jour de l'année bissextile. Mais si j'en parle, c'est que j'ai été moi-même en fait surpris qu'il soit vivant. Pour moi, l'acteur de cinéma, encore plus quand il est américain, rompu aux vices d'Hollywood, il a beau avoir les meilleurs check-up médicaux et les médecins qui vont avec, et bien il pâtit à la fin de sa vie de ses années de débauche. Et en définitive, je pensais que l'acteur vivait moins longtemps que le commun des mortels.
Oui.
Eh bien, je me trompais. La preuve. Alors, en toute hâte, nous avons préparé un mini-hommage à Kirk Douglas. Si je devais m'en tenir à moi, mes émotions, je parlerais de Kirk Douglas dans les deux films de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire et Spartacus, puis dans quelques autres, dont des westerns. Mais il faut bien admettre que l'acteur américain né Isur Danielovitch, et donc oui, Kirk et Douglas sont empruntés, eh bien, a eu son âge d'or à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Après, on peut dire que sa filmographie est plus clairsemée. Mais normal, quand on n'est plus un jeune premier et qu'on explique à ses compagnons de tournage qu'on est né durant la Première Guerre mondiale, on ne peut pas tout jouer non plus. Alors si on la fait courte, Kirk Douglas doit d'abord s'extirper de son milieu d'exilés juifs venus de Biélorussie et entamer des études théâtrales. Alors pour les financer, il est lutteur de foire. Autant dire qu'il doit s'accrocher pour obtenir dans les années 40 son premier grand rôle dans un film de série B, Le Champion. Il interprète un boxeur incorruptible et c'est un succès. Alors, ayant rencontré Lorraine Bacall quelques années plus tôt, eh bien, l'actrice va l'aider à grimper dans la hiérarchie des productions. C'est alors qu'il signe avec la Warner, puis la quitte quelques films plus loin, là de ne pouvoir tourner ce qu'il veut. Alors, on le voit dans un western de Howard Hawks, La captive aux yeux clairs, puis Les ensorcelés de Vincente Minnelli. Il manque l'Oscar du meilleur acteur, tout comme quelques années après avec un gros morceau, celui-ci, hein, Nous sommes en 55, avec La vie passionnée de Vincent Van Gogh, toujours avec Vincente Minnelli. Puis vient un western qui l'impose, Règlement de compte à Hockey Corral, avec Burt Lancaster, un acteur qu'il côtoiera pour plusieurs films et dans des styles différents.
King Corral. Hockey Corral, there the outlaw band make their final stand. Hockey Corral.
Alors la même année, il incarne le colonel Dax de l'armée française dans Les Sentiers de la Gloire, charge antimilitariste de Stanley Kubrick, un film qui sera projeté en France seulement en 75.
Pourquoi ne pas fusiller tout le régiment? Je parle très sérieusement.
Colonel, vous êtes à côté de la question. Nous ne voulons pas massacrer toute l'armée. Tout ce que nous voulons, c'est faire un exemple.
Oh, si c'est un exemple qu'il vous faut, prenez-moi.
Quoi, vous?
Oui, si c'est un exemple qu'il vous faut, un homme fera autant d'effets que 100. Le choix logique est de prendre l'officier le plus responsable de l'attaque.
Alors son meilleur coup, il le fait peut-être avec Spartacus, vexé de ne pas avoir été choisi pour le rôle de Ben-Hur, qui est revenu à Charlton Heston. Et bien Kirk Douglas produit son propre péplum. Le tournage est compliqué, hein. Anthony Mann est débarqué. Kubrick, avec qui il a tourné Les Sentiers de la Gloire, eh bien reprend le film, un succès international.
C'est ton fils. Il est libre, Spartacus. Libre.
Alors, nous abordons les années 60 et le McCarthyisme, l'acteur alors producteur de Spartacus, n'a que faire de la blacklist hollywoodienne qui met de côté les sympathisants socialistes. Alors, il insiste pour que le scénariste Dalton Trumbo soit crédité au générique de Spartacus. Dans le biopic qui lui était consacré au printemps, hein, le personnage de Kirk Douglas y apparaît sous les meilleurs traits. C'est ce qu'on s'était dit, hein, Manu, il avait vraiment le très beau rôle, Kirk Douglas.
Dans le film sorti dans le biopic. Cette année, oui.
Effectivement. Alors, avec le scénariste rouge, il collaborera aussi à Seuls sont les indomptés. Voilà. Et par la suite, eh bien, Kirk Douglas va triompher au théâtre pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et va enchaîner quelques échecs. Hein. Il tourne L'Arrangement sous la direction de Elia Kazan, première victoire avec Otto Preminger et Le Reptile avec Mankiewicz. Quand on lit ces quatre noms, on constate qu'il s'agit d'enfants d'immigrés, voire d'immigrés eux-mêmes, enfin, une fois qu'on sait que Douglas s'appelle Danielovitch. Voilà. Alors, comme il a été producteur et acteur, le voilà réalisateur. Au début des années 70, il réalise Scalawag, adapté de L'île au trésor, c'est un échec. Et deux ans après, un western intitulé Brigade du Texas, et c'est également un échec. Et il arrête la réalisation. On dirait que Kirk Douglas est un homme mesuré. Par la suite, ses apparitions à l'écran, eh bien, seront dictées, semble-t-il, par ses envies. Il tourne encore dans des films qu'il produit, comme Holocaust 2000 et Saturn 3.
Oui, moi, j'ai vu Holocaust 2000, c'est une bisserie italienne d'un mec qui s'appelle Alberto De Martino.
Eh bien, produit par Douglas. Il a beau être d'une autre génération, il parvient tout de même à s'offrir eh bien, deux rôles dans l'ère du nouvel Hollywood, chez Brian De Palma, et on en parlera avec toi tout à l'heure, hein, pour Fury. Et son dernier grand succès pourrait être Nimitz, Retour vers l'enfer, en 80, film mêlant guerre et science-fiction. Alors, Kirk Douglas a beau être centenaire, il a réchappé à un accident d'hélicoptère, Il y a eu 2 morts quand même dans l'accident. Un AVC, une attaque cardiaque. Les tournages pouvant vite devenir le contraire d'une maison de repos, l'acteur a tourné peu ensuite. Hein. Mais en 2003, il aura la force de jouer avec son fils Michael et son petit-fils Cameron dans Une si belle famille. Et son dernier film sera Diamonds en 2004 aux côtés de Lorraine Bacall qui fut son amie et qui avait lancé sa carrière. Voilà, on a fait le tour très très rapidement donc de la filmographie de Kirk Douglas, mais on va écouter un de ses derniers films, c'est Fury avec Brian De Palma.
La carrière de Kirk Douglas, comme le disait Vincent, s'étale donc de 1946 à 2004, en fait 2008 exactement, avec un téléfilm en fin de course qui s'appelait Meurtre à l'Empire State Building de William Carell. Voilà, donc choisir de chroniquer un film parmi les 91 qu'il a tourné est compliqué. Hein. Il a joué donc dans quelques chefs-d'œuvre mémorables, hein, comme La Captive aux yeux clairs, Les Sentiers de la gloire, bien sûr, L'homme qui n'a pas d'étoile, c'est pour moi un de ses plus grands rôles, ou le film noir La griffe du passé de Jacques Tourneur. Mais par un hasard mystérieux, je me suis intéressé aussi à sa carrière des années 70, où il tourne, comme bon nombre de ses compatriotes qui ont un peu de mal à trouver des rôles en vieillissant, dans quelques films bis italiens, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Holocaust 2000, qui est un démarquage en fait de La Malédiction de Richard Donner, et puis un polar aussi qui s'appelle Un homme à respecter de Michele Lupo. Mais, à mon avis, sa meilleure prestation durant cette décennie, la plus émouvante du moins, reste celle de Fury de Brian De Palma, dans lequel il interprète un père à la recherche de son fils kidnappé. Alors, adapté d'un roman de John Faris qui s'initie aussi le scénario, ce thriller fantastique débute par une séquence magistrale de trahison située sur une plage au Moyen-Orient. Alors, Peter et Ben, des amis de longue date, se prélassent sur une terrasse et évoquent le bon vieux temps. Ils abordent vaguement le caractère spécial du fils de Peter, Robin, doté de facultés exceptionnelles. Alors la caméra tourne autour des personnages pendant qu'en arrière-plan se trame quelque chose de suspect. Avec un sens aigu du timing et de l'espace, De Palma crée une tension diffuse qui explosera lors de l'attaque terroriste. Alors le but de cette mise en scène est de kidnapper Robin à des fins politiques. Comme dans beaucoup de films de Brian De Palma hanté par la trahison, le commanditaire de l'attentat n'est autre que Ben, chef de file d'une organisation secrète visant à utiliser les pouvoirs psychiques de Robin. Mais Peter survit.
Je travaillais pour le gouvernement dans une agence que vous ne connaissez pas. Ils ont enlevé mon fils et ont essayé de me tuer. Ils ont besoin de lui. Alors ils l'ont enlevé. Laisse tes mains sur tes genoux, Marty. Ces types ont un pouvoir invraisemblable. Ils peuvent faire disparaître qui ils veulent quand ils veulent. Il faut bien que quelqu'un les arrête.
Un an plus tard, une jeune fille découvre qu'elle possède des pouvoirs de médium. Elle est repérée par un programme de recherche. Dès lors, sa vie est menacée. Mais elle est peut-être la seule chance pour Peter de retrouver son fils.
J'espère vous apprendre à utiliser ce pouvoir pour développer votre don.
Oh, mais ce n'est pas un don. Ce serait plutôt comme un mal de dents qui vous fait souffrir quand on ne s'y attend pas.
Alors c'est parce qu'une partie de l'esprit dont vous ne vous êtes jamais servi avant commence à se sensibiliser.
Se sensibiliser à quoi?
À l'univers bioplasmique.
Répétez.
À l'univers bioplasmique, c'est tout ça. Dans notre univers sont enregistrées toutes les données humaines, impulsions, mots et actes. De toutes les vies passées et de toutes les vies futures. Dans certaines occasions, vous faites une liaison entre le monde spirituel éternel et le monde matériel. Vous avez ce que les clairvoyants appellent une voyance.
Il ne s'agit jamais de moi. Je veux dire, jamais je n'ai vu quelque chose qui se rapporte à moi.
Fury est une œuvre hybride à la croisée des genres. Au premier abord, il s'inscrit au sein d'un courant très à la mode au cours des années 70, le film politique à tendance paranoïaque, comme Les Trois Jours du Condor ou À cause d'un assassinat. Mais De Palma n'est ni Pollack ni Pacula, l'argument politique n'est qu'un prétexte. Le relatif échec public et critique provient sans doute de l'absence d'explication sur l'intérêt de servir des pouvoirs de ces jeunes X-Men. La virtuosité de la réalisation et la dimension émotionnelle du film éclipsent les zones d'ombre et les quelques incohérences de Fury. Alors en mêlant thriller surnaturel, c'est presque un film de super-héros en fin de compte, hein, et exercice de style hitchcockien à la manière de La mort aux trousses, les péripéties de Kirk Douglas évoquent celles de Gary Grant, Brian De Palma livre un film espiègle, sombre et romanesque, parsemé de morceaux de mise en scène uniques. Alors la fuite de Gillian permet à De Palma de rejouer la grammaire hitchcockienne d'une façon quasi opératique, avec étirement du temps, la multiplication des points de vue, la musique surdramatisant le suspense, les ralentis savamment utilisés grâce à un montage sophistiqué. Bref, Fury possède, on va dire, un esprit feuilletonesque et hétéroclite qui tranche avec la rectitude de Carrie, par exemple, qu'il avait réalisé 2 ans avant. qui le rapproche au fond de certains films de Fritz Lang, notamment Les Docteurs Mabuse. Les rebondissements incessants ne nuisent jamais à la cohérence de ce beau film fantastique. Ils apportent une énergie, une folie à une histoire oedipienne qui finit par émouvoir. Alors l'extraordinaire et explosif épilogue, où John Cassavetes explose en fait, je le dis, bon, bah, tout le monde connaît la fin aujourd'hui, hein. Confirme le goût du cinéaste pour les fins pessimistes et chocs. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu le film, j'allais dire que je ne peux pas en dire plus, mais je l'ai dit. La multiplication des angles de la caméra pour une même action est un grand moment de cinéma pur, affranchi un peu d'un certain bon goût. C'est vraiment, il va très très loin dans quelque chose d'assez déviant. Alors porté, bon, je disais, par un casting impeccable, hein, et là Kirk Douglas fait une très très belle composition. Alors Fury est une œuvre à redécouvrir, hein, qui est sortie dans un très très beau Blu-ray signé Carlotta. Alors pour une petite info, Godard est un admirateur inconditionnel de ce film. Et c'est certainement, je pense, du coup, le dernier grand film tourné par Kirk Douglas. Hein, parce qu'après, c'est plus anecdotique. Des films comme Saturne 3 ou Nimitz sont banals.
Non, il y a eu Nimitz, oui.
C'est sympa, même. C'est sympa. Ouais, je l'ai revu récemment et je trouve que c'est un bon petit film de SF, mais ça reste mineur.
Eh bien, en tout cas, ça donne l'occasion de jouer un blind test. Donc, on va écouter 5 extraits de la filmographie de Kirk Douglas. Et on va commencer par un extrait facile.
Allons-nous faire comme les Romains ? N'avons-nous donc rien appris ? Que devenons-nous ? Nous cherchons du vin alors que nous n'avons pas de pain.
Hey, lorsqu'on a du vin, on peut se passer de pain.
Vous n'allez pas tous devenir des ivrognes et des bandits.
Que veux-tu que nous soyons d'autres ?
Des gladiateurs. Une armée de gladiateurs. Une armée comme il n'y en a jamais eu. Un gladiateur vaut 2 soldats romains. Ils n'ont rien à nous apprendre.
C'est vrai, nous avons battu nos gardiens, mais une armée romaine, c'est différent. Ils ont appris à faire la guerre, pas nous.
Mais nous battrons tous ceux qu'ils enverront contre nous si nous en avons la volonté.
Il faudra une armée nombreuse.
Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de tous les villages. Qui rassemblerait une armée plus nombreuse que celle-là ?
Alors, bon, bah, c'était facile, évidemment.
Je pense que c'était Spartacus.
Eh oui, tout à fait. Bien joué. Deuxième extrait, peut-être moins facile.
Courage, professeur. Vous oublierez cette pêche quand vous verrez les filles de Saïgon.
On vous avait promis une prime si vous harponniez le monstre, maître Lang.
Ah, ça, il n'y a pas de danger que je la touche. De retour au pays, je m'embarquerai sur un baleinier qui voudra de moi. C'est pas la fortune. Au moins, je resterai pas à me curer les dents avec mon harpon.
Peut-être bien qu'on a eu de la chance, le monstre nous aurait coulé.
Non, j'en tremble. Faut être beau joueur, professeur. Le poisson qui s'échappe est toujours le plus gros.
Hein, c'est dommage pour vous, professeur. Car nous voyons déjà ce monstre empaillé dans une salle du muséum.
Alors, ils sont à la recherche d'un monstre, c'est...
Le Nautilus, je crois. Non, le Nautilus, c'est le bateau.
Oui,
donc
c'est le bateau.
C'est 20 milieux sous les mers, oui, de Richard Fletcher.
Tout à fait. Film de 54, et c'est la première grosse production des studios Disney réalisée en prise de vue réelle. Et il y a des petits effets spéciaux avec un poulpe qui s'accroche au Nautilus à un moment. Un poulpe géant.
Ça n'a pas l'air bien fait, hein, quand on veut, bon, comment on t'en parle.
C'est de 1954.
C'est un charme,
voilà,
certain.
Voilà, c'est un petit charme. Alors, troisième extrait.
Pendant des années, tu le sais, chaque fois que je voyais quelque chose qui me touchait, j'éprouvais le besoin de le dessiner, de le coucher sur le papier. D'une façon assez grossière, mais peu importe. Maintenant, pour la première fois, je commence à me demander si ce ne serait pas là ma voix. Un homme ou une femme au travail. Des sillons dans un champ labouré. Des grèves balayées par le vent aigre sous un ciel jaune. Ce sont des sujets si difficiles et en même temps si beaux. Mais comme cela vaut la peine de passer sa vie à essayer de saisir la poésie qui est cachée en eux.
Alors, le titre original, c'est Lust for Life, mais toi, tu l'as trouvé avec son titre français.
La vie passionnée de Vincent Van Gogh.
Voilà. Vincent Minnelli. Et donc, c'est un film qui, visiblement, eh bien, a chamboulé un peu notre Kirky. Voilà. Oh. Il a eu du mal à s'en sortir de ce rôle. Quatrième extrait.
À la vérité, je trouve que l'atmosphère de cet endroit est étouffante, déprimante, intenable. Je suis sûr que vous pensez la même chose, bien que pour d'autres raisons.
Je suis tout oui.
250 000 dollars feraient mon affaire, sans l'ombre d'un doute. J'irai dans un autre pays, peut-être au Mexique, pour enfin vivre. Vous allez m'aider à m'évader, j'en ferai autant pour vous. C'est un bon marché.
Non, il n'est pas bon. J'aurai que la moitié du fric.
Vous voudriez tout garder.
C'est une preuve d'égoïsme.
Grand film, celui-ci.
Oui, de Joseph Mankiewicz, Le Reptile.
Dernier extrait maintenant.
Un feuilleton des années 40.
Et les infos c'est de la Deuxième Guerre mondiale.
Quelque part, Dieu sait pourquoi, on veut nous faire revivre les événements de 1941. Mais qui ça ?
Les Russes.
Oh, Dan,
peut-être
parapsychologie.
Excusez-moi, commandant, mais nous devons aussi considérer qu'il peut y avoir une autre possibilité.
Laquelle ?
La possibilité que tout ce qui se passe soit la réalité.
C'est ridicule.
Peut-être. Pourtant, nous avons un certain nombre de preuves à l'appui. Il ne faut pas barrer d'un trait de plume une explication sous prétexte qu'elle n'a pas l'air de plaire.
Mais comment serait-ce possible, monsieur Lasky ? Vous pouvez expliquer, vous, une chose pareille ?
Non, non, ça non. Mais nous savons tous que la relativité du temps existe. C'est un phénomène qu'Einstein a démontré.
En théorie ?
En théorie.
Si je vous suis bien, il suffit d'essuyer une bonne tempête et paf, nous voilà redevenus plus intelligents qu'Einstein.
Alors, c'est le dernier grand film fait par Kirk Douglas, c'est...
Nimitz, Retour vers l'enfer ?
Oui, c'est ça.
De Don Taylor.
Oui, film de 80. Si s'achève ce blind test, on retourne à nos petites chroniques.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Et on continue avec un film absolument fabuleux. Non, en fait, pas du tout. Hein. Enfin, j'aurais aimé vous le dire, mais non. C'est donc Absolutely Fabulous. 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 Alors, Patty et Eddie sont deux sexagénaires londoniennes persuadées d'être au centre des attentions et au cœur de la hype, alors qu'elles ont en fait toujours été has-been et détestées de tout le monde. Alcooliques, notoires et affublées d'un style vestimentaire qu'elles sont les seules à trouver chic, elles vont de mondanité en mondanité pour saluer leurs amis stars et voler des petits fours. Mais au cours d'une soirée, tout bascule dans l'horreur lorsqu'elles poussent par mégarde Kate Moss qui se noie dans la Tamise. Oui, déjà, ça pose les choses, déjà. Le scénario. Alors, Absolutely Fabulous, c'était une série avant d'être un film, une série culte, peut-on ajouter, qui faisait dans l'irrévérence et l'argot anglais. L'intérêt majeur de la série, c'était sa vision acerbe du monde de la mode, mais surtout le fait que les deux personnages soient des seniors qui se vautraient dans la débauche et la vulgarité la plus totale. Pour cela, il faut reconnaître que le film est plutôt fidèle à l'esprit de la série initiale. Et ça fait du bien de voir fumer et picoler dans un paysage cinématographique toujours plus mainstream et toujours plus aseptisé. Mais ça ne suffit pas non plus à nous occuper pendant 1h30. Hein. Alors, je n'ai jamais regardé la série, donc j'ai sans doute quelques lacunes par rapport à cet univers. Il m'est difficile de juger si l'adaptation est réussie ou non. Une adaptation française d'ailleurs avec Nathalie Baye et Josiane Balasco avait déjà vu le jour et ça avait déjà été un échec absolu, hein, comme quoi décidément il n'est jamais bon d'adapter des séries sur grand écran. Et ici, le souci majeur, eh bien, comme souvent, c'est que la mise en scène ne parvient pas à garder un rythme correct. Ajoutez à cela un manque d'enjeux significatif et vous obtenez un film qui, sans être un avis absolu, hein, ne vaut pas du tout le détour. Absolutely Fabulous, c'est un petit peu comme Zoolander 2, le genre de projet qui pense qu'il va être très attendu par le public, alors que pas du tout, en fait, parce que le public sait que ça va être foiré. Et en effet, bah, c'est pas terrible, terrible. Comme dans Zoolander 2, on a rameuté ici le plus de stars de la mode possible afin de donner une légitimité au projet et de montrer à quel point les people sont pleins d'autodérision. Et comme dans Zoolander 2, eh bien, la marée de caméos peine atrocement à cacher un scénario famélique qui n'a rien à dire, si ce n'est lancer des références à des personnalités anglaises qu'il faut mieux connaître, si vous voulez, ne serait-ce qu'un tout petit peu rire.
Oui. Voilà, peu importe comment ça se dit finalement, ce titre de film, très bien.
Vous n'aurez pas à le dire parce que je ne vous conseille pas d'aller le voir, voilà.
Ça va être compliqué aussi niveau prononciation parce qu'on va parler du cinéma japonais avec toi Manu pour un livre DVD qui lui est consacré.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors si vous avez quelques euros à dépenser judicieusement, hein, 69 quand même, hein, alors jetez-vous sur le dictionnaire du cinéma japonais édité par les indispensables Carlotta. J'ai pas d'action, hein, parce que j'en parle de Fury qui est aussi édité chez Carlotta. Il s'agit, comme vous en doutez, d'un recensement par ordre alphabétique des cinéastes importants, 101 exactement, qui ont marqué le cinéma japonais de 1935 à 1975, époque qui couvre une sorte d'âge d'or. Alors pourquoi ce choix apparemment, on va dire arbitraire, l'ouvrage sous la direction de Pascal Alex Vincent couvre ainsi donc 40 ans de cinématographie extrêmement éclectique et qui abonde en chefs-d'œuvre. Alors 1935 correspond grosso modo à l'explosion du cinéma parlant au Japon et surtout à la reconnaissance des grands auteurs qui vont marquer le 7e art comme Yasujirō Ozu ou Kenji Mizoguchi, qui ont commencé au début des années 20, mais qui vont bénéficier des premiers gros succès dans les années 30. Alors, boucler l'ouvrage de manière symbolique en 75 est aussi justifié par le fait que cette date correspond à l'effondrement des grands studios comme la Nikkatsu. Il faudra par ailleurs attendre quelques décennies plus tard pour découvrir d'autres grands cinéastes, hein, au début des années 90, avec l'apparition de gens comme Takeshi Kitano, Takashi Miike ou encore Kiyoshi Kurosawa. Alors, ce dernier d'ailleurs se fend d'introduire le livre avec un joli texte où lui-même semble surpris de l'existence d'autant de metteurs en scène importants au pays du soleil levant. C'est assez étonnant. Il dit clairement qu'il ne savait pas qu'il existait autant de cinéastes japonais.
Il ne soupçonnait pas l'histoire de son pays, en tout cas en cinéma.
Mais la grande qualité de ce dictionnaire, passionnant de bout en bout, même pour les néophytes, est d'aborder tous les cinéastes sur le même plan, sans échelle de valeur. Le papa de Godzilla et Invasion Planète X, Ichiro Honda, a droit à autant de place que l'incontournable Akira Kurosawa, immortel, enfin non, pas immortel, puisqu'il est mort il y a 10 ans, hein, auteur des 7 samouraïs et de la forteresse cachée, inspiration avouée de la saga Star Wars. C'est juste pour dire que le nouveau faux Star Wars sort aujourd'hui. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, des cinéastes bis comme Kinji Fukasaku, qui avait réalisé Battle Royale au début des années 2000, hein, ou Norifumi Suzuki, sont traités avec le même sérieux que Nagisa Oshima ou Mizoguchi. Les analyses sont à la fois pointues et agréables à lire, évitant l'écueil du style universitaire. Alors, ce bel objet ne prétend nullement à l'exhaustivité, mais demeure une entrée excitante au sein d'un univers aussi riche que méconnu. Alors, parmi les plumes affûtées, enfin que je connais et lis à travers certains journaux, on retrouve Stéphane Dumenslido des Cahiers du Cinéma et Julien Céveillon, ex-rédacteur de Mad Movies. Alors, ajoutez à cela une iconographie magnifique et 6 DVD inclus, dont un inédit de Mikio Naruse, le splendide mélodrame Une femme dans la tourmente. Les autres DVD, bon, ils sont déjà sortis il y a quelque temps, sont Harakiri de Kobayashi, Voyage à Tokyo d'Ozu, Je ne regrette rien de ma jeunesse de Kurosawa, Conte des chrysanthèmes tardives de Mizoguchi et enfin Conte cruel de la jeunesse d'Oshima. Alors, on peut juste regretter l'absence d'un film plus populaire dans ce choix de DVD, moins prestigieux dans le coffret, comme un Pink Eiga, par exemple, film érotique japonais, ou un délire pop et un art à la Senjin Suzuki, auteur des géniaux La marque du tueur et Histoire d'une prostituée. Alors, cinéaste pourtant vanté comme étant un génie dans ce dictionnaire. Hein. En plus, ce choix aurait été davantage raccord avec l'esprit, on va dire, démocratique de ce coffret indispensable. Allez, cerise un peu sur le gâteau, on vous offre une petite sucrerie pop de Reiko Ike, une actrice culte de Sex and Fury de Norifumi Suzuki. En entendant en arrière-plan les
gémissements.
Les gémissements.
Ça comme ça.
C'est tiré donc certainement, enfin, c'est sûr même, d'un film érotique japonais, puisque l'actrice était aussi une des égéries de certaines productions érotiques.
Voilà, merci en tout cas pour cette petite idée cadeau, car c'est bientôt Noël.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors après Kirk Douglas, nous n'aurons pas d'autres centenaires à fêter. Donc nous écouterons un acteur français, Marine.
Oui, José Garcia, que j'ai rencontré avec tout le reste de l'équipe du film de À fond, qui est la nouvelle comédie du réalisateur de Babysitting, Nicolas Benamou.
Et lancé pour Noël.